Et 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Sporama, l'actualité sportive en Afrique et dans le reste du monde, c'est dans un instant. Et ce sera avec Nicolas Pineau, Jean-Roger Billon à ce microphone. Je vous propose tout d'abord un bulletin d'infos. Au Nigeria, l'explosion d'une voiture piégée dans une gare routière a tué au moins 71 personnes et fait 124 blessés. L'explosion a eu lieu à Niania, une banlieue de la capitale, Abuja, à une heure de pointe ce matin. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les soupçons se portent sur le groupe islamiste Boko Haram. Les militants de la secte islamiste sont également soupçonnés dans des attaques de ce week-end qui ont fait au moins 60 morts dans l'état de Borno. Deux villages ont été attaqués de nuit. Les habitants ont vu leurs maisons et magasins détruits et incendié. Forte participation hier aux élections bissau-guinéennes. Selon la commission électorale, environ 70% des électeurs se sont rendus aux urnes pour élire leur nouveau président et les députés. Le bilan est plutôt positif selon Augusto Mendes, le président de la commission nationale électorale, qui a par ailleurs annoncé que les premiers résultats pourraient être disponibles dès mercredi. Au total, 13 candidats se présentent à cette élection présidentielle. En Libye, le premier ministre Abdallah Al-Thani a annoncé hier sa démission. Il avait été confirmé le 8 avril dernier pour remplacer Ali Zidane, qui lui a été limogé le 11 mars après quelques semaines de service. Samedi soir, des hommes armés ont attaqué la maison d'Abdallah Al-Thani, considéré comme un proche du bloc des islamistes au Parlement. Sur les raisons de sa démission, Abdelkader Kadoura, doyen de la faculté de droit de l'université de Sète en Libye.
On ne sait pas trop pourquoi, mais il y a deux versions. Il y a avis qui disent qu'il y a un petit peu fixé ce qui s'est passé le soir. Il y a deux jours, il y avait un accident. Il a vu ça pas bien pour lui, donc il a dit qu'il ne veut plus être premier ministre. Mais il y a d'autres gens qui disent qu'il a demandé un prolongement du Congrès national pour une semaine encore. Apparemment, le Congrès, il a refusé. Mais personnellement, je ne sais pas pour quelle raison il a démissionné. L'instabilité gouvernementale en Libye maintenant, c'est un problème, mais bon, c'est l'affaire du Congrès national. On n'arrive pas vraiment de voir la raison réelle de toute cette stabilité gouvernementale. Certainement, il y a un groupe qu'on appelle des Noirs durs au Congrès national qui domine peut-être les choses sur le reste de la Libye. On ne peut pas dire qu'il participe réellement dans la vie politique de la Libye.
Abdel Kadoura, doyen de la faculté de droit de l'université de Sirte en Libye.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
On va tout de suite en Ukraine. Des manifestants pro-russes se sont emparés aujourd'hui d'un autre bâtiment de la police, cette fois dans la ville d'Orlikva. Camille Grosdidier.
L'ultimatum lancé par le gouvernement pour que les manifestants quittent les bâtiments qu'ils occupent dans plusieurs villes a expiré sans que les forces de l'ordre interviennent. Les manifestants pro-russes réclament un référendum similaire au vote intervenu le mois dernier en Crimée, qui s'est traduit par le rattachement de la région à la Russie. Le président intérimaire de l'Ukraine, Oleksandr Turchynov, a menacé de lancer ce qu'il a qualifié d'opération antiterroriste de grande envergure contre ceux qui se sont emparés des bâtiments publics. Dans un entretien téléphonique lundi avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, il a demandé l'appui de l'ONU pour une telle opération. M. Turchynov affirme qu'il n'est pas contre un référendum car il est certain que la majorité de ses compatriotes serait favorable à une Ukraine unie et indépendante qui pourrait élargir les droits des populations dans l'est du pays. Selon lui, un tel vote pourrait avoir lieu en même temps que l'élection présidentielle prévue le 25 mai.
En Syrie, les troupes gouvernementales appuyées par des combattants du Hezbollah ont repris l'ancienne ville chrétienne de Mahaloula. La reprise de Mahaloula intervient après celle de Al-Sarqa, une autre ville près de la frontière avec le Liban. Ces villes frontalières se situent à proximité de la route principale reliant Damas à Homs, un itinéraire clé pour l'approvisionnement des rebelles syriens. Pendant ce temps, le groupe international chargé de superviser l'enlèvement des armes chimiques affirme que 65% des réserves de la Syrie ont été supprimées, mais que le rythme doit être accéléré. On termine aux États-Unis. La violence religieuse n'a pas sa place dans la société américaine. C'est ce qu'a déclaré Barack Obama lors d'un déjeuner de prière à la Maison-Blanche aujourd'hui. Le président américain réagissait à la fusillade d'hier dans une maison de retraite juive dans l'État du Kansas. L'assaillant, un antisémite présumé, a tué 3 personnes. La police a arrêté Frazier Glenn Cross, un militant pour la suprématie des Blancs. Vous êtes sur la Voix de l'Amérique. Maintenant, c'est l'heure du sport. Sportrama, c'est avec Nicolas Pineau.
Bonsoir à tous, Sporama, c'est parti en direct de Washington, vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Amérique, comme tous les lundis soirs. Dans notre émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, écrivez-nous à fr@voanews.com. Vous pouvez également nous joindre sur la page Facebook de Sporama pour commenter l'émission en direct. Nous attendons vos appels en direct. Vous pouvez composer le 001 202 619 31 40. Le numéro de téléphone 001 202 619 31 40. On va saluer avec nous en direct de Libreville Jules Valentin Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
La connexion a été rétablie avec Ouagadougou. On va saluer Salif Kaboré. Bonsoir Salif.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à toutes et à tous. C'est bienvenue à Ouagadougou.
Voilà, merci beaucoup. Nous allons évidemment parler ce soir de la victoire de la Mauritanie 1-0 devant l'île Maurice. Et évidemment, nous parlerons des barrages de la Coupe de la Confédération le week-end prochain. Et retour aussi sur le semi-marathon de Cotonou et les résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain. On va commencer sans plus tarder cette émission. Les éliminatoires de la CAN 2015 ont démarré ce week-end sur le continent. Et si le Soudan du Sud s'est qualifié suite au forfait de l'Érythrée, Mauritaniens et Mauriciens se sont bien affrontés à Nouakchott lors de ce match aller. Les Mourabitoun l'ont emporté 1-0. Un bien maigre avance, hein, évidemment, avant d'aller à l'île Maurice, sachant que les Mauriciens se sont vus refuser un but sur enjeu. Alors Élisée Oumpatine, on va plutôt poser la question à Salif Kaboré. Salif, l'avantage est maigre, hein ?
Oui, l'avantage est véritablement maigre. Hein. Donc, on pensait que ça allait être un peu plus de normes du temps, mais comme vous le savez, en matière de football, il faut toujours être un peu plus tard. Je pense que ça a été un match très, très équilibré. Bon, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure. Résultat, donc, qui se présente comme tel, je crois que les gens pourront donc obtenir effectivement.
Voilà, on va Salif Kaboré, Salif, des difficultés pour vous joindre à Ouagadougou. Jules Valentin Goué, on le disait, hein, les Mourabitoun qui sont à la relance depuis un an et demi, c'est pas facile hein, ce petit avance de 1-0. Hein.
Oui, 1-0, ce n'est pas, disons, une avance rassurante, mais il faut dire que la Mauritanie a surtout actuellement pour mission de gagner en confiance pour bonifier le potentiel qu'elle a démontré pendant le CHAN en Afrique du Sud. Et tout compte fait, et pour une équipe qui nous paraissait relativement défensive, qui conservait beaucoup le ballon, il était difficile de jouer contre une équipe venue justement défendre. Donc le score d'un but à zéro n'est pas si mauvais que cela, puisque la Mauritanie n'a encaissé aucun but à domicile et il suffira tout simplement de mettre un but à l'île Maurice pour, disons, faire douter l'adversaire.
Et on rappelle que c'est le Bassia Damaba hein, qui est l'auteur de l'unique but de la rencontre. Alors on essaie évidemment pour une réaction de joindre Patrice Neveu, le sélectionneur de la Mauritanie, qui devrait être avec nous dans quelques minutes. Alors cette information ce soir de nos confrères de Mauritanie Football qui affirme en tout cas que la nouvelle ministre des Sports hein, mauritanienne refuserait de faire face aux dépenses de la Fédération de Football, notamment pour le match retour hein, qui va se dérouler dans quelques jours à l'île Maurice pour payer notamment le déplacement, l'avion et les hôtels. Alors, affaire à suivre, si nous avons tout à l'heure Patrice Neveu, nous lui poserons la question. Peut-être Jules Valentin Goué, l'autre enseignement de ce week-end, c'est le forfait de l'Érythrée, hein, de dommage hein, pour les joueurs d'Asmara. Hein.
Oui, bien sûr, il y a une équipe d'Érythrée qui était aussi en train de se construire et c'est toujours dommage de perdre sur tapis vert, mais il faut comprendre un peu le contexte sécuritaire régional et relativement aussi le contexte économique peu favorable actuellement. Je crois que les Érythréens ont préféré reculer pour mieux sauter.
Voilà, les Érythréens qui, évidemment, ont annoncé leur forfait, qui vont peut-être faire face à des sanctions, évidemment, hein, de la part de la CAF et voire éventuellement de la Fédération internationale. C'est souvent le cas lors de ces forfaits de dernière minute. Évidemment, ces éliminatoires de la CAN, nous en reparlerons la semaine prochaine. 19h10, temps universel, vous êtes toujours à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Football toujours. Le week-end prochain aura lieu les derniers barrages avant la phase de poule en Coupe de la Confédération. À suivre à la relance, le Al Ahly d'Égypte qui avait été sorti prématurément de la Ligue des Champions, qui fera face aux Marocains de Difa Hassani El Jadida. Et le grand choc que tout le monde attend à Bamako, l'AS Real qui reçoit le Djoliba, un derby inédit pour accéder au tour suivant. Préparation dans la sérénité, on va écouter l'entraîneur de l'AS Real, Nouroum Djané.
Il n'y a pas de problème majeur, je pense que ça va. Déjà, là, c'est deux matchs du championnat qu'on gagne. Et on gagne contre les présents sortants de Stade Malherbe de Bamako. Hier, on gagne un deuxième match. Donc, je pense que à ce niveau, ça va. Il y a un très bon état d'esprit et je pense qu'on est en train de se préparer.
Évidemment, les deux équipes se connaissent très très bien. Vous préparez quelque chose de spécial pour ce match ?
Oui, vous savez, bon, chaque équipe a ses caractéristiques. Ils ont des points forts, ils ont des points faibles. Et c'est vrai qu'on ne peut pas étaler ça sur les antennes, mais quand même, on sait comment ils jouent. Voilà, et ça, on prépare l'équipe par rapport à ça, quoi.
Et vous attendez évidemment une chaude ambiance, j'imagine.
Vraiment, on est persuadé qu'il y aura du monde au stade, quoi. On est persuadé qu'il y aura énormément de monde. Je pense que c'est un match important. Et en plus de ça, c'est une première que les équipes maliennes, l'une des rares fois que les équipes maliennes se retrouvent comme adversaires dans cette compétition africaine. Je pense que c'est ça, tout ça qui rend le match intéressant. Donc, il y aura énormément de monde. Le Mali sort, quoi qu'il arrive, je pense que le Mali sort gagnant parce que ce soit le Djoliba ou le Real, c'est les équipes du Mali, c'est les équipes maliennes. Je pense qu'au-delà de tout le reste, la rivalité et tout ça, je pense que c'est ça le plus important, quoi. Voilà. Donc, ça sera un match intéressant, ça sera un match plaisant.
L'entraîneur de l'AS Real, Nouroum Djané. Jules Valentin Louis, ça va être intéressant, hein, cette confrontation entre les Maliens.
Oui, une confrontation qui va surtout montrer le niveau actuel du football malien, un football qui est très représenté dans les compétitions de clubs, ce qui laisse entendre que nous avons là un championnat bien organisé. Et ma foi, c'est deux équipes qui se connaissent très bien, mais dans de telles rencontres, c'est souvent l'équipe traditionnellement considérée comme la plus forte qui a la pression sur le dos. Je crois que la plus célèbre, c'est le Djoliba et le Real est sur le retour. Donc, finalement, cette confrontation sera très, très serrée.
Et oui, d'autant que le Stade Malien, l'autre grand club de Bamako, avait été lui aussi éliminé. On s'en souvient d'autres rencontres à venir ce week-end. Le Nkana de Zambie face au club Athlétique Bizertin, le CA Bizertin de Tunisie. Et puis les Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud contre l'ASEC Mimosa, le club évidemment ivoirien au Stade Marcoury. Et l'autre club ivoirien, le CW Sport San Pedro, qui accueille une équipe peut-être inconnue des spécialistes, le Bayelsa United du Nigeria. Avant de vous écouter, on va entendre Kofi Firmin Kwaku, l'entraîneur adjoint de l'équipe de CW Sport.
Cette défaite-là, pardon, est effacée parce que là, il faut coûte que coûte, pardon, et rentrer en phase de poule pour réussir la saison, comme je le disais la dernière fois. Et là, nos garçons, ils sont conscients de ce qui les attend. Alors, vraiment, sereinement, on ne peut pas cette rencontre-là. C'est vrai qu'en championnat, on a fait un faux pas. Et il faut automatiquement oublier ça et puis bon, se remobiliser pour affronter ce match-là. Sereinement, quoi, tambour battant. Parce que nous savons bien que la qualification se joue au match aller. Alors, sereinement, nous préparons cette rencontre-là. Mais bon, Dieu faisant, voilà, on pense que ça va nous réussir, quoi. Voilà.
Qu'est-ce que vous savez de cette équipe du Bayelsa United ?
Oui, cette équipe-là, vraiment, on n'a pas grand-chose d'elle. Voilà, c'est un adversaire comme tout autre. Parce qu'effectivement, on n'a rien de cette équipe-là. Voilà pourquoi je dis sereinement. Voilà, on va travailler puis bon, aborder ce match-là. L'objectif voit d'abord assurer la qualification au match aller. Bon, voilà.
Voilà pour l'entraîneur adjoint du CW Sport San Pedro. Il s'agit de Kofi Firmin Kwaku qui était sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Jules Valentin Gouet, vous en savez un peu plus sur cette équipe du Bayelsa United ?
Oui, c'est une équipe nigériane qui était habituée à se livrer, disons, à être quand même assez présente dans la compétition de la Coupe de Confédération, et ma foi, en même temps, nous avions en Ligue des Champions et la grande équipe de Nigériane qui a représenté le Nigeria ces dernières années avec les Kano Pillars. Donc, nous pensons que le Bélaïs, ça qui représente un championnat quand même assez difficile, assez relevé, peut être un aspect de taille pour le CV, un CV qui veut faire oublier un peu la SEC depuis quelques saisons.
Et oui, le CO Sport San Pedro, évidemment, hein, que suivent tous les amoureux du football ivoirien. On a retrouvé notre ami Salif Kaboré à Ouagadougou. Salif, est-ce que vous nous entendez ?
Je vous entends très bien maintenant.
Très très bien, nous aussi on vous entend beaucoup mieux que tout à l'heure. Alors Salif, on le disait, hein, dans cette Coupe de la Confédération, les équipes ivoiriennes feront face au Kaiser Chiefs pour la SEC et évidemment à Bayelsa United pour le CO San Pedro. Quelle est votre analyse sur ces deux confrontations ?
Il faut dire quand même qu'au bout de leur parcours, hein, je peux dire que le Sauvé Sport de Pantéco pourrait bien évidemment s'en sortir parce que quand même c'est une équipe qui se bat énormément, non seulement sur le plan local, là-bas, en Côte d'Ivoire, où l'équipe arrive à s'imposer face à des grandes formations comme la SEC d'Abidjan, et puis bon, voilà des équipes en tout cas qui sont en train de monter aujourd'hui, et qui a également fait la petite différence lors de cette coupe intercontinentale, de cette coupe continentale. Alors, quand vous parlez de la SEC d'Abidjan, c'est véritablement là où se trouve peut-être mon inquiétude, parce que la SEC d'Abidjan n'est plus comme la SEC d'antan. C'est une équipe aujourd'hui qui évolue un peu en temps de vie, mais toujours est-il que face à une équipe sud-africaine, ça va être très difficile parce que même si aujourd'hui le football sud-africain ne répond plus aux attentes de véritables observateurs donc du football africain, il faut dire quand même que c'est toujours un pays qui peut toujours créer la surprise et qui essaye d'aller en année encore de revenir sur le modèle du football africain. Donc je crois que ça va être très difficile pour les équipes ivoiriennes et aussi pour leurs adversaires, mais toujours est-il que c'est sur le terrain que l'on connaîtra l'équipe victorieuse, l'équipe qui a le plus de talent.
Merci beaucoup Salif Kaboré, 19h17, temps universel sur la Voix de l'Amérique. On a le plaisir d'accueillir en direct Patrice Neveu, le sélectionneur des Mourabitoun de Mauritanie. Bonsoir Patrice Neveu. Patrice Neveu, est-ce que vous nous entendez ? Voilà, visiblement Patrice Neveu qui est au bout du ligne, mais la connexion est difficile avec la Mauritanie. Alors on va continuer dans notre émission pour parler de la Coupe de la Confédération. Vous êtes toujours avec nous sur la Voix de l'Amérique. On va écouter Patrick Ossem, puisque l'AC Léopard de Dovizi accueille une autre équipe méconnue, le Medeama du Ghana. On va écouter Patrick Ossem, qui estime que les Congolais devront prouver leur statut de favori sur le terrain.
La déception du match du Soudan est digérée, je dirais. Donc là, maintenant, on est concentré sur notre match de la CAF, puisque l'équipe qui se qualifiera sera reversée dans les poules. Donc depuis notre élimination, on a eu 3 matchs de championnat qu'on a bien négocié, puisque là, après 9 journées, on a 9 victoires et on a un goal average de 21-0. Donc on peut dire que les gars sont restés concentrés. Donc là maintenant, on a fait le boulot, je dirais, pour aborder ce match couperet contre les Ghanéens de la meilleure des façons.
Que savez-vous de cette équipe qui, évidemment, n'est pas la plus connue des équipes ghanéennes ?
Tout à fait. Bah, écoutez, moi, j'ai quelques renseignements depuis le tirage au sort. Bon, j'attends également les DVD que je devrais recevoir incessamment sous peu. Bon, depuis le tirage, ils ont eu 3 matchs, là. Ils en ont perdu 2, ils ont fait un match nul. Je sais également qu'ils ont perdu sur blessure un de leurs 2 meilleurs attaquants. Donc, c'est une équipe qui est en mi-classement, je dirais, dans leur championnat national. C'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts, mais qui n'en marque pas non plus. Donc, relativement solide, je dirais, au niveau athlétique. Et puis, bon, avec les qualités du football ghanéen, c'est-à-dire de la puissance et de la percussion. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la plus connue des équipes ghanéennes, mais je pense qu'elle n'est pas là non plus par hasard. Donc, on est certes favori, mais ce statut de favori, il faudra le démontrer sur le terrain.
Patrick Ossems, le coach de l'AC Léopard. On est avec Salif Kaboré qui connaît bien le championnat ghanéen, évidemment. On connaît beaucoup le Berekoum Chelsea, beaucoup moins le Medea. Hein.
Oui, c'est vrai, hein, mais il faut toujours le dire, Nicolas, car le football ghanéen nous réserve beaucoup de surprises. Hein. Vous savez que les Ghanéens, ce sont des fins techniciens qui peuvent à tout moment créer la surprise. Et je crois que beaucoup d'équipes africaines ont été victimes de cette attitude des équipes ghanéennes. Même au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, là où on n'attend pas le Ghana, c'est là où la formation peut surprendre.
Mais il est très difficile aujourd'hui quand même de pronostiquer parce que quand vous regardez l'AC Léopold, l'entraîneur dont on vient de parler, c'est une équipe qui est très bien en jambe, qui est très bien posée, qui peut créer des surprises à tout moment. Donc, véritablement, avec le Ghana, il faut dire que tout est permis.
Merci beaucoup, Salif, pour cette analyse sur, évidemment, le Medea. Et l'autre rencontre importante pour l'Afrique centrale, c'est le Coton Sport de Garoua qui aura fort à faire hein, contre le Petro Atlético de Luanda. On va écouter l'entraîneur des Camerounais, Didier Gomes d'Arosa.
Nous avons aligné trois très bonnes performances en championnat avec deux victoires et un match nul 0-0 avec 6 buts marqués et 0 encaissé. Donc, c'est vrai qu'on a eu un peu de mal sur les 3-4 premiers jours, mais le championnat est tombé à pic pour relancer tout le monde.
Vous craignez le Petro Atlético ?
Oui, bien évidemment, c'est une bonne équipe. On a de très bons enseignements sur cette équipe. Mais je crois qu'aussi qu'il nous craint. Je crois que notre élimination contre cette équipe n'a tenu à pas grand-chose. Et on produit deux belles performances pourtant. Ce qu'on attend de ce match, c'est de concrétiser nos occasions de but qui doivent nous permettre de mieux gérer nos temps forts. Donc voilà, je crois qu'une qualification passera par vraiment un réalisme qu'on recommence à trouver en championnat en tout cas.
Vous insistez vraiment sur l'aspect offensif. Hein. C'est vrai que toutes ces occasions manquées vous ont coûté cher en Ligue des Champions.
Oui, nous ont coûté cher. Je crois qu'on en a deux très belles à Sétif. Hein. On connaît l'importance des buts marqués à l'extérieur. Et ensuite, au match retour, on tape deux fois sur la barre. On développe quatre occasions franches. Donc, bien évidemment, ce match-là doit nous servir de leçon. On a mis en place des ateliers spécifiques pour augmenter, pour développer le réalisme offensif. On va voir ce que ça va donner contre une belle équipe comme Petro Luanda.
Didier Gomes d'Arosa, l'entraîneur des Camerounais, Jules Valentin Ngoué, belle opposition évidemment hein, entre le Coton Sport et le Petro Atlético. Hein.
Oui, c'est une très belle opposition pour eux. Un football d'Afrique centrale caractérisé surtout par la puissance, la vivacité des joueurs. Et là, le Coton Sport de Garoua a une carte à jouer. C'est une équipe qui doit se réhabiliter après le faux pas de la Ligue des Champions, car sa véritable place est en fait en Ligue des Champions. Donc je crois que c'est une équipe qui va soigner le réalisme de ses attaquants et avoir sûrement un peu plus de fighting spirit pour aborder ce tour, car le contraire serait une condamnation à des critiques généralisées.
Voilà, enfin, le Oroya de Guinée qui retrouve une autre équipe du Maghreb sur son chemin, c'est l'Étoile du Sahel.
Magie d'une minute, une ambiance de joie et d'espoir. Imagine encore une minute.
Voilà, retour sur la voie de l'Amérique. En bref, l'association sportive Alissabiye Djibouti Telecom a conservé sa couronne de champion en football après une ultime victoire contre l'université de Djibouti 4-1. Le club a battu tous les records hein, cette saison, enregistrant 16 victoires, 1 nul et 1 défaite. Parlons à présent du semi-marathon international de Cotonou qui a eu lieu dans la capitale béninoise avec une distance de 21 km. La 6e édition de cette course a connu la participation des athlètes des pays de la sous-région. Élisée Oumpatine a suivi la course pour la Voix de l'Amérique.
Ils sont près de 5000 athlètes venus du Nigeria, du Niger, du Togo, du Burkina Faso, du Mali et du Bénin à prendre part à la 6e édition de ce semi-marathon international de Cotonou. Une course qui s'est courue sur une distance de 21,10 km entre le Carrefour Sobibra et le stade de l'amitié de Kourounou, le tout en 1h10. Et à l'arrivée chez les hommes, c'est le Ghanéen Fabila Frimpong qui est sorti vainqueur devant le Togolais Dalouba Nikabou et d'un autre Ghanéen, Lagbé Raja Komlan, classé 3e. Fabila Frimpong, 2e l'année dernière lors de la 5e édition, s'est dit heureux de cette performance. La consécration de cette édition de 2014 est au niveau des dames avec le sacre de la béninoise Alassane Ben. Elle a devancé la Nigériane Letia Maïga et la Nigérienne Bakissa Abdoulaye, le tout en 1h37. Benti marque son absence de la précédente édition. Pour elle, cette performance représente beaucoup de choses.
Il y a longtemps où les Béninois n'ont plus pris la première place. Voilà pourquoi je me suis battue pour revenir emporter la piste et montrer le contraire. Mais c'est Béninois qui ne croit pas que nous pouvons avoir la première place avec le temps.
A noter que le premier de cette course a empoché 2 millions de francs CFA. 1 million pour le deuxième et 500 000 francs CFA pour le troisième, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Élisée Oumpatine, Boïcon, La Voix de l'Amérique.
et à Yaoundé, la capitale camerounaise, a abrité le 4e championnat d'Afrique des nations amateurs de full contact et de kickboxing. La compétition a réuni les meilleures nations africaines, notamment le Maroc, Madagascar, le Cameroun, mais aussi le Gabon. Eric Ella est le président de la fédération, il fait le bilan de ses 16 combattants.
On a un bilan plutôt positif. On a ramené 4 médailles d'or, 6 en argent, 5 en bronze, une ceinture professionnelle et un trophée d'honneur pour la 17e combattante. Donc on va dire qu'il y a 16 combattants qui ont vraiment combattu et une qui a eu un trophée d'honneur. Donc c'est plutôt un bilan positif dans la mesure où c'est une compétition qu'on a préparée à la va-vite en 3 semaines, de sur quoi toutes les conditions de préparation n'étaient pas réunies. À chaque championnat d'Afrique, le niveau ne fait que monter. J'espère qu'au niveau de nos autorités, puisque le ministre va nous recevoir bientôt, je vais quand même poser ce problème parce que les autres progressent, mais nous, on a tendance à stagner.
Eric Ella, le président de la Fédération gabonaise de full contact, il était interrogé par Fritz Koum. Retour aux États-Unis, comme l'avait laissé entendre son entourage ces dernières semaines, Michael Phelps va faire son retour dans les bassins en compétition. L'Américain en 18 titres olympiques est inscrit sur la liste des participants à la prochaine réunion de Mesa. Enfin, la NBA, le championnat de basket nord-américain, grâce à leur victoire sur les Los Angeles Lakers 90-102, les Grizzlies de Memphis prennent une sérieuse option pour la dernière place des playoffs. Tout pourrait se jouer lors du match de ce soir face aux Suns de Phoenix. Déjà éliminés de la course aux phases finales, les Knicks de New York ont fait honneur à leur maillot et ont chanté le Madison Square Garden en mettant fin à la série de 7 victoires des Bulls de Chicago 100-89. Enfin, Toronto s'est imposé à Détroit 116-107. Ainsi s'achève ce Sporama. Merci à tous de nous avoir suivis. Ça a été un petit peu compliqué ce soir. On vous donnera rendez-vous évidemment la semaine prochaine. On va remercier à Libreville Jules Valentin Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, à très bientôt.
Merci à Ouagadougou, à Salif Kabore. Bonsoir Salif.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à toutes et à tous. Je vous rassure que la nuit entre Ouagadougou et les États-Unis sera complètement réglée demain.
Inch'Allah, comme on dit à Dakar. Merci à Georges Léonard Sagno qui était à la mise en onde. Nicolas Pinault était à la présentation. On va vous souhaiter une excellente soirée, toujours à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Tous les lundis soirs, La Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Mingi molondo na leke longwa na zela molondo na leke.